Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Radio BLV pour cette première chronique Marina de cette nouvelle année 2022 pour laquelle je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille et avec vos amis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'animaux marins qui n'en ont pas l'air. Beaucoup d'entre nous, et même certains plongeurs, croient avoir affaire à des végétaux, voire des algues calcifiées. Les anciens les considéraient comme une pierre arborescente. Les pêcheurs et naturalistes savaient cependant que le corail a la faculté de grandir et son origine vivante a rarement été remise en cause. Il s'agit en effet de colonies d'animaux. Le terme français provient du latin corallium, qui provient lui-même du grec archaïque corallion, désignant déjà ces animaux fixés, caractérisés par un squelette externe en calcaire dur ou protéinique mou. Le milieu sous-marin en regorge une multitude de différents embranchements. Celle d'aujourd'hui fait partie des cnidaires, c'est-à-dire du même embranchement que les gorgones ou encore les méduses, par exemple. Ce sont des colonies de polypes qui se regroupent pour former des structures fixées sur le substrat, généralement à faible profondeur, maximum 40 mètres, et dans des eaux relativement chaudes, supérieures à 20 degrés. Mais pas trop, nous verrons pourquoi un peu plus tard. Chaque polype sécrète un squelette protecteur dans lequel il est niché, et cela forme des étendues parfois minéralisées, parfois urticantes, diversement coloriées, rouges, bleues, noires, beige foncé, plus ou moins importantes et durables. Les formes sont propres à l'espèce, les coraux durs minéralisés donc, sont considérés comme constructeurs de récifs. Ils se sont formés par accumulation de ces squelettes durs, dont certains sont devenus les plus grandes structures complexes connues, créées par des organismes vivants, les grandes barrières de corail, notamment en Australie. Ce sont des coraux au sens stricto sensu du terme, des vrais coraux. On estime le nombre d'espèces à environ 800, en large majorité tropicales. De nombreux coraux vivent en symbiose avec des végétaux unicellulaires, les zooxanthelles dans les mers chaudes, ou d'autres espèces de phytoplancton dans les mers froides. La symbiose est l'association intime et durable qui bénéficie à chacun. L'un peut, par exemple, assurer la protection de l'autre quand ce dernier lui offre les restes de ses repas, qui le nourrissent à son tour. Ces coraux, habités par le phytoplancton, ont besoin de lumière pour que le phytoplancton puisse pratiquer la photosynthèse qui permet à ces organismes de se nourrir. Les autres coraux, dépourvus de zooxanthelles, peuvent vivre en profondeur, par exemple en Atlantique jusqu'à 4000 mètres. En Méditerranée, on trouve à de faibles profondeurs, jusqu'à 40 mètres environ, dans des endroits dépourvus de lumière, surplomb, grotte, le fameux corail rouge utilisé en joaillerie. Les grands récifs coralliens semblent être les plus vieux animaux coloniaux vivant au monde. La longévité de certaines colonies dépasse 400 ans. Certaines auraient peut-être plusieurs milliers d'années, selon certains experts. Ils figurent parmi les plus anciens animaux, étant apparus aux alentours du Cambrien, il y a entre 541 et 485 millions d'années. Les coraux peuvent se reproduire de manière sexuée ou asexuée. Une ponte permet l'émission au même moment d'une grande quantité de spermatozoïdes et d'ovules dans l'eau, constituant une ressource pour les nombreux animaux, filtreurs notamment, qui s'en nourrissent, tout en favorisant un brassage génétique important. Ils peuvent également être hermaphrodites, possédant à la fois des organes reproducteurs, mâles et femelles. Plusieurs animaux sont capables de se nourrir de corail, comme les poissons papillons et, ou surtout, les poissons perroquets, mais aussi des mollusques. Généralement, leur activité est en équilibre avec la croissance du corail et permet un beau renouvellement des populations et assure à la biodiversité du récif. Cependant, depuis les années 1970, des invasions spectaculaires d'étoiles de mer dévoreuses de corail, les acanthastères plancy, provoque des mortalités massives et brutales de grandes quantités de corail, ravageant parfois des côtes entières, notamment en Australie, au Japon et en Indonésie. Ces invasions semblent être de plus en plus fréquentes et brutales et inquiètent d'autant plus les scientifiques que les causes en sont encore mal connues. Les récifs coralliens et les écosystèmes qui les assurent sont en situation de crise écologique. Environ 50% des récifs coralliens du monde sont morts au cours des 40 dernières années et environ 60% de ceux qui subsistent encore sont en danger à cause de l'homme, surtout en Asie du Sud. Au rythme des années, l'ONU, l'Europe et les nombreux États appellent à les protéger et ou ont voté des textes ou des lois en faveur de leur protection. Par exemple, la Grande Barrière a perdu plus de la moitié de ses coraux entre 1987 et 2014. Plusieurs causes semblent conjuguer leurs effets négatifs pour ces coraux. La surexploitation et les effets indirects de la pêche, le corail rouge est surexploité, le chalutage dégrade les massifs de coraux et l'utilisation d'explosifs pour la pêche dans certaines régions les pulvérise. L'activité humaine, creusement pour construction de ports ou de canaux, quand ils ne sont pas utilisés comme source de calcaire pour des constructions. Le réchauffement des eaux de surface, de la montée de la mer, de l'acidification des océans, le tout associé à une hausse continue des émissions de gaz à effet de serre, sont des sources de stress pour les coraux. Lorsque les eaux ont une température dépassant les 30 degrés Celsius, on observe à l'échelle planétaire le phénomène de blanchiment des coraux, car le corail perd sa couleur à la suite de l'expulsion des zooxanthelles avec lesquelles il vit normalement en symbiose, et ce dont il a été question au début. D'autres raisons sont également probablement à l'origine de son blanchiment, comme la pollution, l'usage des pesticides ou d'engrais ou de métaux lourds qui se déversent dans les eaux. Mais, pour terminer sur une note positive, des actions de préservation, de restauration, de conservation et de protection telles que la coralliculture, qui, si elle fait la joie des aquariophiles, y contribue. Près de 90 espèces sont ainsi élevées à travers le monde. Des projets de transplantation de corail à grande échelle dans des zones dégradées se développent dans certains pays, parfois avec succès. Des associations telles que la Coral Reef Alliance, Reef Check ou Coral Guardian organisent également un suivi de l'état de ces récifs. En France, il existe également une initiative française pour les récifs coralliens, IFRECOR, dépendant du ministère de l'écologie. D'autres actions telles que la cryoconservation, le bouturage, la mise en place de réserves naturelles ou de soutien d'unités de recherche participent également au sauvetage de ces animaux. Souhaitons qu'ils y parviennent. À temps. Voilà, c'est la fin de cette chronique. En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé, surtout par les temps qui courent, je vous donne rendez-vous au mois prochain sur Radio BLV pour la présentation d'un autre animal, pas moins étonnant.